notre matinée. Donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous êtes bien reposés pour parler des transports et de l'énergie durable ce matin. Donc je vais passer le micro à Patrick Matagne pour être président de séance. Donc je voulais vous remercier d'être là et puis aussi remercier notre intervenant, Monsieur Passalacqua, et les autres intervenants, certains ne sont pas encore arrivés. Donc merci beaucoup, à tout à l'heure.
Donc bonjour, nous allons démarrer notre troisième demi-journée. Cette demi-journée est consacrée à la question des transports durables et à celle de la transition énergétique. Et donc nous accueillons ce matin d'abord Arnaud Passalacqua, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paris Diderot et a une double formation. Il est à la fois ingénieur X et pont et également historien, d'où son intérêt pour l'histoire de la mobilité dans le cadre du renouvellement que connaît l'histoire des transports à l'échelle internationale. Ses travaux ont d'abord été centrés sur la mobilité urbaine à Paris et à Londres, puis dans d'autres villes européennes telles que Rome ou Lyon. Il travaille également d'autres systèmes, notamment sur la réforme ferroviaire de 1997 qui a donné lieu à la création du réseau ferré de France. Il est également impliqué dans le développement d'un laboratoire interdisciplinaire qui porte sur les énergies à Paris Diderot. Donc sa conférence de ce matin est intitulée « Les mobilités urbaines depuis les années 70, aménagement, espace public et rigidité ». Merci beaucoup.
Merci. Donc bonjour, merci de votre accueil. Vous allez avoir ce matin deux interventions sur les transports urbains d'historiens, avec mon collègue Mathieu Flonneau qui arrivera en deuxième partie. Le transport, c'est un des sujets dans lequel nous sommes la question énergétique est aujourd'hui la plus sensible. On en parle énormément, elle est la plus visible, parce que le transport, c'est une des techniques avec lesquelles vous êtes en relation quotidienne par les pratiques que nous avons. Et les transports ont une capacité à focaliser l'attention qui est assez forte. Si vous regardez sur quoi sont jugés les élus, les mandats, etc., c'est bien souvent, le transport est bien souvent très mis en avant, souvent au-delà de ce qu'il mérite. Mais il a une capacité comme ça de focaliser l'attention et, en l'occurrence, pour les enjeux du moment, évidemment, l'automobile a focalisé l'attention sur ces questions, enfin sur les questions de gaz à effet de serre, alors que d'autres enjeux, sur les bâtiments par exemple, sont peut-être tout aussi sensibles et sont sûrement moins visibles ou moins souvent avancés. Alors, ce que je vais vous proposer, je pense que ce sera en écho avec ce que fera mon collègue Mathieu, c'est de revenir sur une quarantaine d'années de transports urbains. C'est-à-dire les transports urbains depuis les années 70. Alors pourquoi les années 70 ? Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est autour de cette fin des années 60, de mai 68, on va dire, pour avoir une icône, que le système automobile a commencé à craquer. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de limites. On va revenir là-dessus. Donc, premier élément. Deuxième élément, vous connaissez, vous avez dû peut-être en parler, le choc pétrolier de 73, qui est un élément important. La fin d'une croissance économique, plus de questions qui reviennent. Et c'est véritablement dans le début de ces années 70 qu'un regain d'intérêt s'est trouvé pour les transports publics comme solution alternative à l'automobile. Donc on va essayer de revenir là-dessus, cette histoire qui, pour montrer aussi qu'il n'y a absolument pas de caractère linéaire à ce développement des transports publics ou à ce regain d'intérêt des transports publics, puisque autant on s'y est pas mal réintéressé dans les années 70, autant les années 80 et même début 90 ont un petit peu réduit leur intérêt sur ce sujet, avant de revenir à l'aune de nouvelles problématiques à partir de la deuxième partie des années 90, les années 2000, sur un intérêt fort pour le développement d'autres solutions de transport et les questions qui ne s'appellent plus de transport mais de mobilité à partir de là. Je vais aborder la question énergétique pas principalement, mais on la verra régulièrement, notamment à travers la question de l'électricité. Et j'essaierai de développer en fin de conférence le rapport, j'ai prévu de le faire, le rapport entre la question du tramway, qui est en fait l'icône d'un développement de mobilité dite durable, Et alors, on pourra parler de savoir si Poitiers, un jour, en aura un. C'est un bus à haut niveau de service, je crois, qui est en cours. Le tramway, dans son rapport au paysage et à l'électricité, puisqu'en fait, on verra que le tramway, aujourd'hui, une de ses vertus, c'est d'avoir besoin d'alimentation électrique et d'incarner une sorte de tournant énergétique. Alors, j'espère que cela sera un petit peu illustré. Alors, plein écran, c'est ça. Alors, j'ai commencé par vous proposer une image que vous connaissez peut-être, d'Albert Robida. Robida, qui est un illustrateur anticipateur sur le futur, de la fin du 19e, début 20e. Et cette image, c'est la sortie de l'opéra en l'an 2000. Et vous voyez donc que cette sortie de l'opéra s'opère avec des véhicules individuels et collectifs, mais qui frappent par le fait qu'ils sont aériens et en fait qui sont aussi électriques dans l'imaginaire proposé. Donc tout ça pour vous se mettre en tête le fait que, d'une part, l'électricité pour bouger, comme source de mobilité, est quelque chose d'ancien, quelque chose pour lequel on a eu des engouements réguliers. Hein, aujourd'hui, on en vit un. Mais c'est quelque chose qu'on sait faire depuis pas mal, enfin qu'on sait faire et qui a certaines limites et souvent les mêmes depuis au moins un siècle. Et également pour relativiser tout ce que nous pouvons penser de ce que seront les mobilités futures. Alors là, c'est assumé, mais je vous montrerai au fil de la conférence aussi des plans programmant ce qui doit être fait en région parisienne. Et puis en fait, vous verrez que absolument rien de tout ça n'a été réalisé. Donc tout ça pour relativiser. Alors mes trois axes problématiques sont aménagement, espace public et rigidité. Il s'agit en fait, l'aménagement, ça va être évidemment, le transport n'est pas intéressant en tant que système technique, mais intéressant dans la mesure où il se comprend comme fonctionnant avec un territoire, et notamment avec le tramway. On verra qu'un projet de tramway aujourd'hui, ce n'est plus un projet de transport, c'est un projet d'aménagement, un projet politique, un projet de visibilité de la ville à l'échelle nationale. La question de l'espace public, elle est fondamentale dans la mesure où cet espace public est restreint à ses propres qualités, mais aussi ses propres limites, et chaque système essaye de l'occuper. Et les rigidités, c'est pour montrer aussi à quel point ce champ est marqué par des inerties assez fortes, aussi bien dans les choix techniques. Vous avez dû voir les chemins de dépendance qu'on appelle en histoire des techniques, les choix énergétiques et puis des mentalités aussi. Alors, quatre parties. La première partie, on va se demander ou essayer de montrer, mais mon collègue Mathieu en parlera mieux que moi, en quoi la France des Trente Glorieuses, pour faire vite, est devenue un monde automobilisé. Même si, et Mathieu le fait encore mieux que moi, il ne faut pas parler du tout automobile, mais l'automobile a quand même acquis une place énorme. Deuxième partie, on verra que à cette situation qui commence à craquer à la fin des années 60, on a une réponse qui se fait par de multiples innovations, dont très peu émergent finalement. Donc cette innovation nous semble mise au défi. Et parmi ces innovations, finalement, celle qui semblait peu technique et peu innovante, c'est en fait la réinvention d'un vieux mode, qui est le tramway, qui finalement est celui qui s'impose. Donc on s'intéressera au tramway. Et puis la dernière partie, on verra en quoi on a un nouveau paysage urbain où l'énergie joue un rôle important, l'électricité en l'occurrence. Et je le mettrai en parallèle avec le fait que les tramways anciens, en 1900, se faisaient rejeter au nom de leur alimentation électrique. Alors, première partie, un monde automobilisé. Alors, l'automobile est quelque chose qui a été qui date des années 1890, 95, 1900. Avant 14, c'est quelque chose qui ne touche uniquement des élites extrêmement sportives et riches. Dans l'entre-deux-guerres, c'est quelque chose qui se diffuse un petit peu, mais à une haute bourgeoisie. Et ce n'est qu'à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale en Europe qu'elle se démocratise massivement. Aux États-Unis, dès les années 20, tout le monde a sa voiture, etc. C'est autre chose. Et la diffusion se fait massive. Vous voyez ici, on a l'icône des grands ensembles qui sont la même période, avec en bas des tours et des bars, l'automobile. Il s'agit aussi d'une icône de l'entrée dans un nouveau mode de consommation, enfin mode de nouvelle société, cette société dite de la consommation. à cet équipement des foyers correspond aussi une évolution du territoire, avec la diffusion d'un habitat autour de ce qui étaient les centralités, avec la diffusion d'équipements aussi de parking, de passage dénivelé pour l'automobile, d'autoroutes urbaines, et avec la diffusion aussi d'un modèle appelé à se généraliser, qui est le centre commercial, le premier étant de Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois, en région parisienne, en 1963, dont vous voyez qu'un des produits phares, c'est bien sûr la vente d'essence. Alors, cette diffusion massive de l'automobile, elle se combine, enfin, elle met au défi certains enjeux assez forts qui vont de pair. C'est-à-dire qu'assez rapidement, les foyers ont une voiture, deux voitures. La multimotorisation, c'est quelque chose qui existe dès les années 60. Et ça produit une congestion. Elle atteint ses propres limites, l'automobile. La sécurité routière aussi. Vous savez que le sommet de morts, je crois que c'est 74, où il y a environ 15 000 morts par an sur les routes. Donc c'est à partir de là qu'on crée la prévention routière, toutes ces choses-là, la sécurité routière. Mais l'automobile est encore quelque chose qui tue énormément à cette époque-là. Elle pose souci aussi du fait de nuisances. Alors, ce qu'on peut appeler plutôt des nuisances, qui touchent à une notion importante à l'époque, qui s'appelle le cadre de vie. On ne parle pas encore d'environnement, assez peu, ou pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Et ces nuisances, c'est le bruit, c'est la pollution locale, mais on n'est pas du tout sur les thématiques qui nous préoccupent aujourd'hui, qui sont autres. Vous voyez peut-être cette image-là. Ça, c'est à Paris en mai 68. Qu'est-ce qu'on fait en mai 68? On brûle des voitures. Icône d'une société qui est en partie rejetée. Alors, des solutions sont un petit peu avancées. Les Anglais, il y a le rapport le plus important, s'appelle le rapport Buchanan, qui est produit par les Anglais, Traffic in Towns, et qui essaye de trouver des solutions pour ménager une place à l'automobile tout en ménageant des places à d'autres systèmes. Sans pour autant rejeter la voiture. Alors, simultanément, en fait, les transports publics sont dans l'impasse. Ils vivent un véritable désintérêt du fait, d'une part, que la congestion va les enliser. Le public se reporte sur l'automobile, donc n'utilise plus ses bus, puisque à l'échelle de la France, c'est surtout des bus. Et en plus, la faible fréquentation fait que l'offre va diminuer parce que pour des raisons financières, donc du coup on a une sorte de spirale négative. L'image est vieillissante, ces systèmes sont discrédités, sont accusés de provoquer la congestion, ce qui est plutôt de mauvaise foi, ce que font les villes françaises à cette même époque, dans les années 55-65, c'est le démantèlement des réseaux anciens de tramway. Puisque toutes les villes avaient des tramways, des tramways plus légers que ceux qu'on connaît aujourd'hui, et seuls Marseille, Lille et Saint-Étienne vont garder une ligne chacune pour des raisons assez spécifiques et pas par amour du tramway particulier. Donc ce système est plutôt à l'agonie. Alors, la réaction va se faire autour de cette fin des années 60, début des années 70, parce qu'on va avoir un changement de paradigme. Alors, j'aurais pu mettre cette diapositive avant. Les années 60 étaient marquées aussi par un engouement pour la thématique de la mobilité. Si vous pensez à ce qu'a été la présidence de De Gaulle et puis la suite un peu même avec Pompidou, on avait de grands projets qui sont très fortement liés à la mobilité en général. Alors, le paquebot France, le Concorde, les périphériques, l'équipement en autoroute, etc. On est sur un développement tous azimuts de la mobilité, y compris sur de la mobilité publique en région parisienne avec le RER. On est en fait dans une confirmation d'un schéma ancien dans lequel la France est inscrite depuis le développement du chemin de fer, depuis le milieu du 19e, le premier tiers du 19e, c'est le lien entre saint-simonisme et mobilité, c'est-à-dire le fait que les corps techniques français, les ingénieurs, sont très fortement marquées par une idéologie saint-simonienne qui veut que le développement des réseaux de communication va amener la prospérité, va amener la paix, va amener la richesse, les échanges, échanges culturels aussi, hein, pas que financiers. Et ce schéma va connoter extrêmement positivement la question des transports et des mobilités. Et les périodes de croissance, comme les années 60, trouvent une très forte légitimité au fait de développer les réseaux, de développer les systèmes de transport d'échange. Et ça, c'est ça qui va basculer. Alors, ça bascule du fait de plusieurs facteurs sur lesquels je reviendrai, mais y a des lignes qui étaient déjà engagées et qui vont se heurter à ce basculement. Alors, ces lignes déjà engagées, il y a plusieurs systèmes sur lesquels l'innovation travaillait pour, justement, dans la lignée de ce qui a existé, le Concorde, etc. Et celle qui est assez intéressante, c'est celle qu'on appelle, enfin, qui s'appelle l'aérotrain. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu, qui connaissent l'aérotrain. Voilà, cet objet-là. L'aérotrain, c'est un système qui est intéressant parce qu'il est hybride. Il est issu du monde de l'aviation, et plus même du monde de l'aviation que du monde ferroviaire. Mais en tout cas, il s'agit grosso modo de faire un avion terrestre qui va sur un monorail et sur coussin d'air permettre d'aller extrêmement rapidement d'un endroit à un autre. Et ce système est conçu comme pouvant faire de l'interurbain. Hein, il y a des plans qui prévoient plusieurs lignes en France, mais aussi en région parisienne, il est conçu comme faisant du transport public d'un aéroport à l'autre, d'une ville nouvelle à Cergy à La Défense. Donc on est sur un système qui en fait va chercher une liaison pertinente pour un territoire pertinent à desservir, ne va pas le trouver, en fait, hein, puisque ce système va se heurter au fait que les systèmes de transport trop bruyants, comme celui-là, et qui demandent donc une énergie tellement assez forte, ne sont plus acceptables à partir de ces débuts des années 70. Ce qui s'appelle le train sans roues, comme vous voyez dans Paris Match, ce train sans roues, il marche... C'est un système thermique et c'est un système qui fait extraordinairement du bruit. Et donc, son insertion dans la ville n'est pas possible, n'est plus possible. Par ailleurs, il y a aussi des enjeux de concurrence avec la SNCF qui sont assez forts et qui font que ce système, qui pourrait pu s'inscrire dans la lignée du Concorde, du RER, etc., va s'effondrer et ne sera jamais mis en œuvre à part une ligne expérimentale entre Paris et Orléans, dont il reste encore quelques éléments de structure. Donc cet échec en fait, de l'aérotrain, il symbolise la fin de ce monde qui avait une forte confiance dans le développement des mobilités à tout crin, si j'ose dire, et également la fin d'un monde qui pouvait se fonder sur d'énergie thermique sans souci. Dans le monde des transports urbains, on a un autre élément d'innovation qui va échouer, c'est en fait parmi les solutions qui sont recherchées pour améliorer les systèmes de transport public, il y a tout un terrain d'innovation très très forte qui cherche à essayer de trouver un intermédiaire entre transport individuel et transport collectif, d'essayer une voiture collective si vous voulez, ou un métro plus individualisé. Et c'est ce qui s'appelle en anglais les PRT, Personal Rapid Transit. Et le système qui a été le plus avancé en France s'appelle Aramis, sur lequel vous avez un ouvrage important de Bruno Latour, hein, qui est ici à gauche, et qui a essayé d'analyser l'échec, hein, de ce système. Ce système, vous voyez, il a été promu par les politiques, par la RATP, Matra, enfin tout le monde était derrière, mais au final, ça n'a pas marché. La Tour essaye de comprendre, hein, pourquoi ça n'a pas marché. Ce qui est intéressant, c'est que ce système qui a coûté extrêmement cher, avec beaucoup d'innovation, etc., c'est pas du tout celui-là qui va s'imposer. Mais ceux qui vont s'imposer, et c'est là où il y a une inertie, c'est en fait plutôt des vieux systèmes préexistants. À savoir, on va revenir, on va voir, c'est le métro, le tramway, qui sont des choses avec une technologie, on va dire, beaucoup plus basique. Alors, les années 70, les débuts des années 70, du coup, a une confiance dans beaucoup de ces systèmes qui sont uniquement en développement. Aucun d'entre eux n'existe. Et vous voyez ici, c'est une carte parue dans Le Parisien de 1972. C'est une carte de la région parisienne qui vous explique, en fait, alors c'est tout petit, mais tous les petits cadres, là, vous expliquent quel est le système qui va faire telle ou telle liaison. Alors vous avez tous les systèmes dont je viens de parler, des choses qui portent tout un tas de noms, Urba, Safège, etc., qui sont des innovations. Et en fait, aucune d'entre elles ne va être mise en œuvre. La seule qui est mise en œuvre, c'est le RER, qui en fait jamais qu'un gros métro ou un métro régional, comme on l'appelle, avec aucune technologie nouvelle, ou à peu près. Donc, autrement dit, entre Robida et un plan comme ça qui présente l'avenir de ce que sera la région parisienne dans l'an 2000, vous avez peut-être plus de proximité qu'il n'y paraît. Alors, il y a des innovations néanmoins qui se font, qui sont surtout dans les villes nouvelles. Les villes nouvelles, c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là, hein, qu'à partir de 65 notamment, que se développent donc les villes nouvelles. Et les villes nouvelles sont des nouveaux territoires avec une forte capacité d'intervention de l'État, avec une forte confiance donnée aux ingénieurs, et donc l'application aussi hein, de principes de circulation. Donc on a des innovations qui sont à la fois dans la constitution des espaces, et puis aussi des innovations un peu techniques. Alors, si vous prenez ici l'exemple de Cergy Pontoise, Cergy Pontoise applique ce qu'on attribue à la charte d'Athènes, hein, c'est la séparation des flux. Vous avez un urbanisme de dalle avec des automobiles en dessous et puis des circulations séparées hein, pour les piétons. Donc ici, vous voyez qu'on vous montre qu'à Cergy Pontoise, vous pouvez faire plein de choses à pied sans croiser une voiture. Et puis vous pouvez faire plein de choses en voiture sans croiser un piéton. Les transports vont être un champ aussi d'innovation important, au-delà de la création même des espaces, avec le développement de bus électriques, le développement aussi hein, des recherches sur des petits véhicules comme ça, qui sont en fait des véhicules électriques, des voitures électriques individuelles, que vous voyez sur fond de préfecture de Cergy-Pontoise. Donc les villes nouvelles sont aussi des lieux où on se dit qu'on peut bouger autrement et que face aux problèmes que connaissent les villes anciennes, on peut développer des nouvelles techniques de transport. Néanmoins, ce qui se cache derrière, c'est quand même en fait toutes ces solutions électriques, de bus électriques, de voitures électriques, vont finalement s'effacer au profit de solutions anciennes, anciennes, mais juste massifiées, c'est-à-dire que l'automobile, la ville nouvelle va surtout être liée aux autoroutes, et puis les villes nouvelles sont surtout ce qui justifie aussi le RER. Donc on est sur quelque chose qui, en fait, revient à des solutions plus anciennes que les solutions novatrices mises en œuvre au début des années 70. Alors, le triomphe des solutions plus classiques, il est assez clair dans ce qui se passe à Lyon et à Marseille, qui vont être dotés de métros, notamment fortement influencés par la RATP. L'innovation, s'il en a une, elle est plutôt à chercher du côté d'un métro automatique, hein, celui qui est ouvert à Lille en 83, qu'on retrouve à Rennes et à Toulouse, qui s'appelle le VAL. Qui a comme innovation le fait d'être automatique, pas de conducteur, etc. Mais après, il s'agit surtout d'un métro. Et dans son rapport à la ville, il y a peu d'innovation, à mon sens. Alors, d'autres types d'innovations qui ont lieu dans les années 70, en fait, elles ne sont pas du tout techniques au sens de l'ingénierie. Elles sont beaucoup plus marquées par on pourrait qualifier de gouvernance des transports, c'est-à-dire que l'innovation va jouer par le fait que les acteurs se mobilisent, c'est nouveau. Il y a un grand congrès à Tours en 1970 où beaucoup d'élus, des collectivités locales, etc., vont se regrouper et vont traiter la question des transports, se dire les transports publics, c'est pas possible de les laisser comme dans leur état, il faut absolument qu'on s'engage là-dessus. Deuxième innovation, le financement. avec la création de ce qu'on appelle le versement transport, c'est-à-dire que les entreprises vont payer une partie de leur masse salariale pour la question du transport, et ce qui va dégager de grosses marges pour l'investissement. Le autre type d'innovation, la tarification, avec l'exemple le plus marquant, c'est celui qui se passe à Paris, mais on retrouve ça dans d'autres villes, savoir une carte intégrée qui vous permet de prendre tous les transports, de faire une correspondance sans payer plusieurs billets. Et puis aussi un changement dans les perceptions, l'image de ce que sont ces systèmes, avec ce qui s'appelle à l'époque le développement de la promotion du transport, c'est-à-dire grosso modo de la publicité, en faveur des transports publics. On essaie de contribuer à modifier l'image vieillissante, archaïque de ces systèmes. Donc l'innovation n'est pas uniquement dans la nouvelle technologie, en quelque sorte. Et même, c'est plutôt dans le domaine des nouvelles technologies qu'elle n'a pas fonctionné, dans l'occurrence. Alors, 73, j'aurais peut-être dû vous en parler avant, je suis désolé. 73, c'est intéressant parce que, comme vous le savez, il y a un choc pétrolier. Un choc pétrolier qui va avoir, en fait, peut-être un écho en deux temps. C'est-à-dire que, dans un premier temps, les acteurs en 73 sont très marqués par la question du choc pétrolier, et le transport est clairement un des champs importants d'intervention immédiate. On va interdire les courses automobiles, par exemple. On va développer les couloirs de bus. On va faire des campagnes. Alors là, c'est en région parisienne, le bus, la voiture anti-gaspi. Donc on vous dit, il y a toute des séries de promotions de l'autobus, en l'occurrence, qui pourtant est lui-même thermique, a lui-même des consommations qui, lorsqu'il est à moitié vide, sont loin d'être convaincantes. Mais il y a toute une didactique sur le sujet. Alors, donc on a un premier impact assez fort. Mais en fait, assez vite, ça s'efface. Et je vous ai mis, pour comprendre ça, l'évolution du prix du litre d'essence en euros constants, euros 2010, je crois. Vous voyez que donc, le prix d'essence, il était à... Ça, c'est 1960, il est à 1,4 €, et puis il baissait, et puis là, 73, hop, ça monte. Et ça monte, et puis en fait, à 79, ça remonte, et puis, qu'est-ce qui se passe en 80, enfin dans les années 80, c'est que ça redescend fortement, jusqu'à ce qu'on appelle le contre-choc pétrolier, avec en fait un prix de l'essence qui est au plus bas, historique, au deuxième partie des années 80. Et puis, toutes les années 90, etc., c'est quasiment à peu près constant, et toujours, en fait, plus faible que ce qui s'est passé dans les années 70. Et si vous pouvez même continuer jusqu'à dire qu'aujourd'hui, le prix d'essence qu'on annonce comme ayant jamais été aussi fort que ce qu'il a... en fait, il a déjà été aussi fort. Et les années 70 payaient plus cher leur essence que nous la payons aujourd'hui. Et cet effet fait que finalement, le choc pétrolier a eu un impact fort au début, mais après, finalement, les choses se sont apaisées. Et la peur sur la question de l'essence n'a pas été aussi forte que si le prix avait réellement continué à être très cher. Alors, d'où le fait que ça soit un peu estompé et qu'on puisse se demander si la conscience énergétique a été éphémère, en fait, la prise de conscience. Néanmoins, on s'aperçoit que le choc de 73 va être un catalyseur pour certains projets intéressants et qui vont se développer sur le très long terme. Et le principal, c'est le tramway. Et on va voir le lien entre tramway et choc de 73. Donc, la réinvention du tramway. Alors, réinvention parce que les villes françaises, comme en Europe, avaient des tramways depuis le 19e et qu'elles s'en sont débarrassées, Paris et Londres, dans les années 30. Et puis après, toutes les autres villes en suivant dans les années 50. Alors, la réinvention du tramway, ça va se jouer sur un contexte nouveau, donc l'inquiétude énergétique autour de 73. L'idée aussi que les centres-villes présentent un intérêt. Vous avez, dans ces années 73-74, le développement de tout un plan des villes moyennes. On s'intéresse aux villes moyennes. C'est là-dessus que jouera, par exemple, La Rochelle, avec le développement des vélos, etc. Cet intérêt pour les villes et les centres-villes se joue aussi autour de la piétonnisation, du fait que le piéton, il faut lui retrouver une place. Rouen est la première ville à piétonniser une rue en 71, puis il y a d'autres villes qui vont suivre, enfin toutes les villes vont suivre d'ailleurs. Ce contexte, c'est un poids nouveau pour les villes qui va s'accroître après 82 avec la décentralisation et les maires et puis après les intercommunalités qui ont un poids nouveau, important. C'est aussi la fin d'un monde, la fin de la période de Gaulle-Pompidou. On passe à autre chose, à une autre approche. Giscard, c'est pas du tout, c'est très différent, enfin assez sensiblement différent, avec un intérêt porté au cadre de vie, à l'environnement qui est nouveau. Et puis il y a aussi un regard sur l'étranger qui va être important pour le tramway, avec un groupe d'études des transports urbains modernes, GETUM, qui est un petit groupe de gens qui s'intéressent au transport et qui va alimenter en fait le gouvernement en l'occurrence sur le fait d'aller voir en Allemagne, en Suisse, que ces villes-là n'ont pas abandonné leur tramway et qu'elles ont des solutions électriques de mobilité. Et ça va fortement intéresser le gouvernement autour d'un ministre, enfin d'un secrétaire d'État qui s'appelle Cavaillé, secrétaire d'État au transport, et qui va lancer un concours en 75, mais vraiment sous l'effet du choc de 73. Ils sont en train de rechercher des solutions électriques pour bouger. C'est au même moment que Giscard pousse pour qu'on fasse la première ligne Paris-Lyon en TGV, parce que c'est une solution électrique. Et alors le concours Cavaillé, le secrétaire d'État écrit à 8 villes françaises que vous avez là, et leur dit qu'est-ce que vous pourriez faire si l'État vous aidait à développer un système de transport de tramway moderne. Et dans son courrier, il s'agit de s'adapter à la ville telle qu'elle est. C'est-à-dire que c'est fini l'idée des innovations ultra-technologiques capables de révolutionner la ville, mais au contraire, il faut prendre la ville comme elle est et essayer de s'y insérer. Et alors, ce terme tramway moderne, il est un peu bizarre parce qu'en fait, au début, dans son courrier aux villes, il explique, il parle de tramway moderne. Et puis après, en fait, il va revenir en arrière et il va appeler ça un système de transport électrique guidé en site réservé. Alors pourquoi ? C'est parce qu'en fait, beaucoup de gens, et notamment l'icône de cela, c'est Chaban-Delmas, qui est maire de Bordeaux, depuis 1948, c'est des gens qui ont démantelé les tramways dans leur ville. Chaban-Delmas, il a toujours dit, moi j'ai démantelé les tramways, jamais je le remettrai. Et donc, Cavaillé et son équipe n'osent plus parler de tramway, mais parlent d'une sorte de métaphore, enfin de rébus, là, qui dit que bon, il faut que ça soit électrique, que ça soit guidé, que ça soit en site réservé. Et donc, à partir de là, vous pouvez inventer ce que vous voulez, mais grosso modo, il n'y a qu'une solution, c'est le tramway. Et les constructeurs, Alstom, il y a grosso modo des consortiums de constructeurs qui vont sortir gagnants de cette consultation. Les constructeurs vont produire des solutions, mais en revanche, les villes ne vont pas du tout être intéressées. Les 8 villes ici, aucune ne va véritablement s'engouffrer dans ça, alors que l'État disait « moi, je vais vous aider ». Alors, pourquoi est-ce qu'ils avaient pris ces villes-là ? Ils avaient pris des villes qui étaient de taille suffisante pour pas être... De taille suffisante pour qu'il y ait des problèmes de transport public, mais pas trop grosses, parce que les plus grosses, l'idée, c'était d'avoir du métro. Et c'est ce qui se fait à Marseille et à Lyon. Mais alors, il y a une ville qui était un petit peu entre les deux, c'est Nantes. Et finalement, Nantes, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Nantes va s'emparer de cette idée de tramway, va se lancer à fond là-dedans. Les choses sont un peu compliquées, mais grosso modo, Nantes va être la première ville à remettre un tramway en ville, avec une facilité, parce que ce tramway va suivre les voies ferrées. Et Nantes ouvre une première ligne en 85, suivie par Grenoble et Strasbourg, qui sont les trois grands exemples, qui vont inventer en fait, ce que c'est que le tramway, on va appeler ça à la française, c'est-à-dire un système de transport assez lourd par rapport au bus, c'est clair, avec des capacités de transport importantes, mais aussi un objet politique, fortement politique. Vous avez des référendums sur le tramway qui sont organisés à Grenoble, etc., dans d'autres villes, à Brest. Vous avez aussi une dimension très forte qui est de vecteur de requalification. C'est-à-dire le tramway, assez rapidement, est un outil pour transformer la ville, y compris dans les quartiers d'habitat sociaux, etc. Et c'est un support de l'image de la ville. Et il est électrique, évidemment. Alors, le contexte, en fait, il est devenu de plus en plus favorable au tramway. C'est-à-dire que là, vous avez les trois premières villes. Mais depuis lors, on a une trentaine de villes qui ont aujourd'hui un tramway. Et même celles qui avaient fait confiance énormément au bus sont revenues là-dessus, comme Dijon, qui fait aujourd'hui, enfin qui a maintenant un tramway. Donc le contexte, il a beaucoup tourné autour du tramway parce que les enjeux ont changé et que le tramway va bien y correspondre. L'idée, c'est qu'on passe à des enjeux qui deviennent de plus en plus globaux sur le changement climatique. L'enjeu énergétique est revenu après les années 80 et début 90, il est revenu en force. Et l'électricité, du moins jusqu'à Fukushima et même depuis lors, a quand même une image très positive dans les transports publics. La question aussi de la densification, de la ville-centre, la lutte contre le périurbain est très favorable au tramway. Tout l'enjeu de la mobilité dite durable, la solution clé en main que les politiques veulent mettre en œuvre, parce qu'elle serait d'ailleurs attendue par la population, c'est le tramway. Le tramway devient l'icône de ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, les lois, j'ai mis ici les différentes lois, je n'ai pas le temps de rentrer dedans, mais ces lois sont très favorables sur la question des transports au développement de solutions type tramway pour des raisons aussi énergétiques. Vous connaissez la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie qui s'intéresse notamment au plan de déplacement urbain. Alors, tout cela va conduire à une dernière partie. Je ne sais pas combien de temps il me reste. D'accord. Bon, c'est bon, là. Non, bon, c'est bon. Une dernière partie pour raisonner, pour réfléchir un peu à comment est-ce que ce nouveau système de transport, avec une nouvelle énergie, qui est l'électricité, puisque le tramway vient à la place de bus, pour l'essentiel, pour comment est-ce que ce système de transport va produire un nouveau paysage et quel rapport entre paysage et énergie avec, dans les transports. Avec immédiatement une prise de recul historique. Je vais vous offrir 5 minutes où on va revenir bien avant ce que j'ai abordé, à savoir toute la première histoire du tramway, des années 1850 aux années 1930. On va essayer de réfléchir au lien entre... je vais essayer de vous montrer que la question énergétique a été instrumentalisée pour refuser le tramway dans les villes françaises et même en Angleterre, ailleurs aussi, dans cette partie-là. Alors que, en fait, l'idée, c'est de mettre en parallèle que depuis les années 80, Nantes, etc., au contraire, on va avoir un accueil du tramway et on va faire la place à des alimentations électriques extrêmement massives, finalement. On va essayer de magnifier, de confier à des designers, etc. Et que, alors, dans un premier temps, en fait, le paysage, le tramway va instrumentaliser le paysage, c'est-à-dire qu'on va, pour des raisons de paysage, on va refuser le tramway. Alors que donc aujourd'hui, depuis les années 80, au contraire, c'est le paysage qui instrumentalise le tramway, c'est-à-dire que le tramway est le vecteur de la création d'une nouvelle ville, d'un nouveau paysage. Alors, pour être clair, en fait, l'argument esthétique, est-ce que le tramway et l'argument esthétique se résument pour l'essentiel à l'alimentation aérienne électrique du tramway, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans l'histoire des tramways. C'est un argument qui, en fait, même est utilisé de façon massue, c'est-à-dire que, grosso modo, il y a beaucoup de... même des historiens qui vont dire le tramway a été refusé pour des raisons esthétiques, sans chercher à aller plus loin sur qu'est-ce qu'il y a derrière. On va essayer de voir qu'en fait, derrière, c'est aussi des raisons sociales. Le rejet du tramway, c'est quelque chose qui est ancien, parce que, alors, faut comprendre que les transports publics sont nés en Europe pour l'essentiel. L'omnibus, qui est l'ancêtre de l'autobus à cheval, c'est quelque chose qui est né à Nantes en 1826, inventé un peu de façon involontaire, mais en l'occurrence à Nantes. 1828 à Paris, 1829 à Londres, ça se diffuse extrêmement vite. Le train est quelque chose, le chemin de fer est quelque chose qui vient des Anglais. Le premier métro est à Londres en 1863. Et le tramway, c'est le seul qui, en fait, ne vient pas d'Europe, mais vient des États-Unis. C'est créé en 1832 à New York. Et ce tramway d'origine américaine est quelque chose qui a été assez longtemps perçu comme inapproprié par les élites bourgeoises des villes européennes. Parce que le tramway viole un petit peu le cœur des villes qui se veulent plus historiques, enfin qui sont plus historiques. Et puis surtout, le tramway, c'est moins cher, puisque en fait, comme il y a un meilleur roulement sur les rails, vous pouvez mettre plus de monde et faire des tarifs moins chers. C'est moins cher que l'omnibus. Et c'est moins cher, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plus de classes populaires qui vont utiliser ces transports. Et donc, derrière ce refus du tramway, il y a un refus social, et caché par du refus esthétique, en fait. Alors, la première ligne en Europe, c'est une ligne à Paris qui s'appelle l'Américain, on l'appelle l'Américain, qui court le long de la Seine. Il n'y en a qu'une seule image, hein, qui est celle-là. Et en fait, qui est marginalisée le long de la Seine, on refuse qu'elle rentre vraiment dans la ville, enfin qu'elle rentre vraiment dans les rues. Et finalement, c'est plutôt en zone rurale qu'il va y avoir des premiers développements. Et puis, à partir des années 1870, comme les villes industrielles commencent vraiment à craquer du point de vue des transports, on accepte progressivement le tramway, mais surtout en périphérie. Et c'est des tramways à chevaux. L'électrification va se jouer à partir des années 80-90, avec plusieurs... les années 80-90, c'est des années d'innovation très forte en termes énergétiques, avec plusieurs voies de motorisation possibles. Il n'est pas du tout écrit que ces tramways devaient être électriques. Plusieurs solutions sont utilisées. La vapeur, les Anglais vont avoir assez longtemps des tramways à vapeur. L'air comprimé, vous avez des bonbonnes qui se décompressent comme ça tout le long du trajet. Et puis l'électricité par batterie, par aérienne, etc. Donc le premier tramway électrique en France sera à Clermont-Ferrand en 90. Et puis après, sous l'influence d'une compagnie en fait d'origine américaine, qui s'appelle Thomson Houston, qui est en fait un ancêtre d'Alstom, le Tom, hein, c'est le même, cette compagnie va développer les tramways électriques en France à partir d'une vitrine qu'elle se sera construite en rachetant le réseau de Rouen en 96. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où l'électricité devient une solution d'alimentation des tramways, enfin de motorisation des tramways, la question paysagère va sortir. En fait, à partir du moment où il faut implanter des poteaux et puis des lignes aériennes de contact, le tramway va poser problème et on va le refuser. On va le refuser dans les lieux les plus prestigieux, dans les quartiers les plus bourgeois. À Paris, c'est clair, mais c'est aussi à Bordeaux, à Marseille. Ça se joue. Les grandes places parisiennes, en l'occurrence, mais vous en avez d'autres. Ici, ça doit être la place de la République. Ces grandes places, on va interdire l'alimentation aérienne sur ces places-là et on va imposer, par exemple, que le tramway change d'alimentation pour passer la place avec une alimentation par le sol. Ce qui fait qu'en fait, à chaque passage de place, vous perdez beaucoup de temps pour changer l'alimentation. Donc en fait, on met tout un tas de barrières au développement du tramway, et en fait, sous des raisons esthétiques, mais derrière ça, on a des rejets sociaux. Et les cartes de tramway sont assez claires. Hein. Pour ce qui est de Paris, les espaces de l'ouest parisien, il n'y a aucun tramway. À Londres, c'est pareil. Dans les espaces autour de Kensington, etc., il n'y a pas de tramway. C'est les quartiers bourgeois, qui pourtant, et à Paris, c'est de l'haussmannien, c'est assez neuf, en fait, c'est la ville déjà industrielle, mais le refus du tramway est assez clair. Donc on a un paysage scindé entre un tramway qui est plutôt en banlieue et qui du coup est connoté populaire d'autant plus, et puis un centre-ville qui est des espaces plutôt ouest qui les refusent. Alors, il y a le monde du tramway essaie de développer des nouvelles techniques pour répondre à ces conditions qui sont en fait des conditions sociales. Hein. Alors les batteries, l'alimentation par le sol, vous savez qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui a été développé à Bordeaux et puis un peu ailleurs, c'est quelque chose qui existait en 1900, mais qui coûte cher parce qu'il faut entretenir, c'est plus cher à l'entretien, ça marche moins bien, etc. Donc en fait les tramways vont avoir, alors qu'évidemment en fait, l'alimentation aérienne est le plus efficace, le moins cher, etc., c'est la solution qu'on lui refuse. Et donc en fait ce monde du tramway va pas réussir à trouver sa meilleure expression dans la mesure où les conditions paysage, esthétique, mais aussi sociale derrière ça, l'en empêchent. D'où des surcoûts et d'où en fait aussi l'atomisation des solutions, puisque chacun va développer ses petites solutions, alors qu'en fait la meilleure solution est refusée. Donc le tramway est un mode qui est peu légitime, se trouve, alors qu'il pouvait avoir une certaine pertinence. Vous voyez ici, ça c'est de l'alimentation par le sol, hein, assez clairement, vous avez un rail central. Alors, en revanche, à partir des années 1900-1910, on va avoir, cette question paysagère va être progressivement abandonnée. on va l'accepter de plus en plus, le tramway, parce que la taille des villes devient telle que les questions de transport sont de plus en plus fortes. Et même les villes les plus bourgeoises vont craquer progressivement. Vous voyez les cartes avec les tramways qui progressent. Mais les espaces les plus prestigieux, par exemple à Paris, les grands boulevards, là où il y a pourtant la ligne de bus la plus chargée du réseau, on va toujours refuser, complètement refuser tout tramway sur ces espaces qui sont les espaces où il y a tous les élites, les journalistes, etc. Donc on refuse. Ça craque un peu parce que l'électricité se banalise aussi. Il y a des automobiles électriques. Vous savez que les taxis à New York ou à Paris passent directement du cheval à l'électricité autour de 1900-1905. Et puis après reviennent au pétrole, enfin viennent au pétrole après. L'électricité va aussi se massifier avec le métro, évidemment, dans l'espace des grandes villes. Donc, l'argument paysager va progressivement quand même s'effacer. Alors, revenons au tramway d'aujourd'hui. Même si, alors je joue un peu sur le terme, je tiens à souligner que tramway, en fait, c'est un même terme qui désigne des choses assez différentes. Comme vous avez pu voir de trois images, le tramway de la première génération des tramways, c'est quelque chose qui est assez petit, qui n'est pas du tout, ne prend pas ses aises sur les espaces comme on les connaît aujourd'hui. Et c'est pas le roi de la rue en quelque sorte. Alors que là, vous avez quelque chose qui domine complètement l'espace public aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que le tramway ne cache pas. On va discuter un peu de l'alimentation par le sol, mais ne cache pas son caractère électrique et prend ses aises et est producteur de paysages dans les villes françaises. Ici, vous avez quelques villes. Alors, je crois que c'est Marseille se distingue par un matériel différent, parce que les villes ont quasiment toutes le même matériel Alstom. Marseille, et puis d'autres que vous aurez reconnus, Strasbourg, Valenciennes, Strasbourg en haut, et puis les autres m'échappent. Orléans, sûrement. Donc un paysage qui, là, on peut être qui est plutôt minéral, excusez-moi, mais aussi le tramway a apporté quelque chose d'autre, qui est en fait quelque chose de tout à fait nouveau, en l'occurrence, même si les Allemands avaient quelques plateformes engazonnées en 1900, c'est ce qu'on appelle la plateforme engazonnée, alors qui maintenant n'est pas toujours avec du gazon. Vous avez aussi des traitements par d'autres végétaux. Mais c'est quelque chose qui, en fait, le tramway, c'est aussi des mètres carrés de pelouse. C'est même vendu par, quand vous regardez la communication autour des nouveaux projets, c'est on vous fait l'équivalent de tant de stades de foot en pelouse, etc. Lyon, Nantes, Montpellier, qui se distingue par ses robes, ses livrées de tramway assez particulières, et puis Paris. Alors, il y a clairement un lien très fort entre paysage et tramway et paysage électrique. Vous voyez, ici, il y a du vert, mais il y a aussi, clairement, l'alimentation électrique n'est pas du tout niée. Dans des villes qui auraient pu se payer l'alimentation par le sol, Paris, Lyon, Montpellier avaient les moyens de le faire. Alors, en fait, le tramway, aujourd'hui, il a une vertu de transport, certes. Vous mettez plus de monde, c'est plus régulier, quelque chose qui permet une meilleure accessibilité des handicapés, etc. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup d'autres vertus. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'on développe un projet de tramway. Alors, il y a l'idée que vous passez à une mobilité électrique. Après, aujourd'hui, le report modal, ce qu'on appelle le nombre de gens qui passent d'un mode à l'autre, c'est-à-dire de l'automobile vers le tramway, généralement, on estime que c'est autour de 5% d'un tramway. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez 100 voyageurs à bord, il y en a 5 qui, avant, prenaient leur voiture pour faire le même trajet. Donc, le report sur du thermique vers l'électrique est assez faible. Les autres pouvaient prendre le bus, mais le bus a été supprimé par le tramway, donc enfin il n'y a pas eu ce choix en fait en quelque sorte. Créateur de nouveaux paysages, créateur aussi d'une image de la ville. Ici vous avez ce qu'on appelle les nez de tramway avec pour faire vite celle-là par exemple en forme de coupe de champagne à Reims et avec tout un discours. Sur l'attachement au territoire. Et je vais en arriver surtout sur le paysage électrique, voilà, pour finir là-dessus. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que Alors que j'ai essayé de vous montrer que dans la première génération des tramways, l'électricité avait été, la question paysagère a été instrumentalisée pour le refuser. Là, en l'occurrence, l'électricité va prendre complètement ses aises. Ici, vous êtes à Paris, vous voyez, hein, on voit presque, enfin, on voit le vert, on voit le tramway, mais on voit surtout aussi ce qu'on appelle les poteaux porte-lac, lac LAC, la ligne aérienne de contact dans le terme, le jargon local. Et ça traduit une évolution de l'image des énergies, une connotation extrêmement positive de l'électricité à l'aune des enjeux de changement climatique et donc une dégradation simultanée de l'image du pétrole. Et vous voyez qu'on confie ici, pour ce qui est de Paris, à un designer qui s'appelle Jean-Michel Villemotte, le dessin des poteaux qui deviennent des objets d'art. Cette électricité, elle est même complètement magnifiée dans un paysage qui assume complètement le caractère électrique. Ici, c'est à Mulhouse, où vous voyez que l'entrée des stations est marquée par des poteaux porte-lacs qui, en fait, sont un seul arc et qui sert à tenir la ligne et qui sont d'une visibilité énorme. Et de même que là, hein, là, c'est de nuit, c'est à Paris. Le côté électrique, il est évident. On joue sur les lumières, on joue sur un peu comme le métro pouvait jouer, hein, sur le caractère propre de l'électricité. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a quelques villes qui ont fait le choix de l'alimentation par le sol. Alors, il y en a une, hein, historiquement, il y en a une, c'est Bordeaux, en 2003. Je finis en deux secondes. Je vais le comparer à Orléans. Alors, à Bordeaux, vous êtes en haut là, hein, ce qu'on appelle le pont de pierre, qui est en fait classé au patrimoine, etc., inscrit au patrimoine français et puis maintenant mondial. Et là-dessus, ça a été une des raisons principales pour lesquelles Bordeaux a voulu absolument lutter contre l'aérien et faire une alimentation par le sol. Au contraire, à Orléans, vous avez aussi un pont classé avec un tramway ici, qui passe devant la cathédrale, tout ce que vous voulez, et en fait, le pont était équipé de poteaux. Donc en fait, l'idée d'esthétique, il faut y réfléchir encore. C'est pas évident que l'argument esthétique soit si fort. À mon sens, en fait, Bordeaux a voulu se différencier dans le monde des tramways en choisissant une nouvelle technologie, en quelque sorte. Et on a payé les frais, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, ça n'a pas marché. Et ils ont eu pas mal de problèmes avec des bus de remplacement régulièrement parce que ça ne marchait pas. Aujourd'hui, ça marche mieux. Néanmoins, aujourd'hui, on voit que plusieurs villes continuent à avoir des projets de tramway en assumant complètement le caractère électrique. Et il y a quelques villes qui ont repris la nouvelle génération d'alimentation par le sol. C'est le cas à Angers, à Reims, à Orléans, la deuxième ligne à Orléans. Mais c'est aussi le cas à Dubaï et à Brasilia, qui sont des villes où le paysage urbain n'a rien d'historique. Au contraire, notamment Brasilia, un caractère moderne, etc. Donc, en fait, c'est plutôt un engouement pour les nouvelles technologies, à mon sens, qu'une question liée au paysage et qu'un rejet du paysage électrique. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci.
Merci beaucoup pour cette conférence qui est alors passionnante effectivement parce que au-delà des enjeux technologiques, ce que vous avez voulu mettre en avant, c'est l'importance des enjeux politiques, des enjeux sociaux. Comment le tramway finalement va être l'expression d'une forme de négociation entre une demande sociale et une demande politique. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de questions dans la salle sur un sujet aussi important. Oui.
Bonjour. On a beaucoup parlé d'alimentation aérienne ou d'alimentation par le sol, mais j'aimerais savoir si vous connaissiez les rendements de ces deux systèmes.
Alors, dans le système contemporain, enfin parce que le système historique ancien, il est clair que l'alimentation par le sol, c'est pas bon. Il y a plein de feuilles qui viennent se mettre, ça demande un entretien très fort. Il y a des chevaux qui sont tués parce qu'ils s'électrocutent. Bref, ça marche pas très bien et c'est clairement un mauvais système, mais le contexte socio-politique fait que, bah voilà. Aujourd'hui, Bordeaux a eu beaucoup de mal et maintenant c'est assez bien stabilisé. En termes de rendement électrique pur, je n'en sais rien et à la limite, je vous dirais, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais c'est sûr que, enfin, d'après ce que j'en sais, la ligne aérienne de contact, pour tout système, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. pour aussi bien pour l'entretien que pour le rendement global. Mais comme vous l'avez dit, le tramway, c'est un projet négocié. Et dans les négociations, la question énergétique, en fait, je vais reprendre autrement. Un transporteur, la question énergétique, c'est quelques pourcents de ses coûts globaux. Les transports, c'est surtout de la main-d'œuvre. Hein, les transports publics, c'est beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre, les conducteurs, etc. La maintenance. Et alors, je connais les chiffres que pour la RATP, mais je pense que c'est à peu près pareil partout. L'énergie, c'est 5-7% du chiffre des dépenses. Donc, ce n'est pas un gros, gros problème par rapport à d'autres choses. Voilà. Ce n'est pas totalement satisfaisant, mais voilà.
Non, enfin, j'avais un complément à la question. C'est est-ce que vous pensez qu'un jour, on verra ce genre de système sur les voitures, notamment les voitures électriques ?
Ça me fait une transition avec mon collègue Mathieu Flonneau qui pourra peut-être vous en dire plus sur... Oui, je crois que j'ai vu passer l'idée qu'il pourrait y avoir des bornes de recharge de voitures électriques sans contact, si c'est ça un peu ce à quoi vous pensez.
Non, je pensais plus à du transport sur de longues distances, étant donné les problèmes d'autonomie des batteries. Mettre en place ce genre de système, par exemple, sur les autoroutes, permettrait de faire de
l'alimentation
très longues
aérienne.
Distances.
Oui. Ah oui. J'avoue, je n'ai jamais croisé un tel système, mais ça ressemble un peu à l'idée de faire des petits véhicules individualisés qui en fait sont du transport collectif, quoi. C'est du train, mais avec des petits. C'est ça.
J'ai une question à poser avant. Je voulais savoir, le grand public dit, le tramway coûte cher. Est-ce que ça coûte cher un tramway? Qu'est-ce que ça veut dire, tramway coûte cher?
Qu'est-ce que ça veut dire? Un coût de tramway, le tramway au kilomètre. Alors, donc, l'investissement d'un tramway, qu'est-ce que c'est? C'est, vous devez, la première chose qui n'est pas visible et qui coûte cher, mais qui n'est pas payée en fait, par la collectivité, c'est ce qu'on appelle c'est enlever les réseaux qui sont sous le sol du tramway, c'est-à-dire enlever l'eau, le gaz, etc., qui passent là-dessous, sous la plateforme, pour les mettre ailleurs, pour pouvoir intervenir dessus. Parce que sinon, si vous avez la plateforme de tramway, vous n'intervenez plus dessus. Donc ça, c'est le premier truc, mais en fait, c'est les concessionnaires qui payent. Mais ça coûte très cher. Et après, globalement, il faut transformer la voirie. Alors, la façon dont la France a adopté le tramway, c'est que le tramway n'est pas qu'un système de transport, c'est quelque chose qui requalifie de façade à façade. C'est-à-dire, on refait tout l'espace public. Et donc, ça coûte d'autant plus cher. C'est pas forcément comme ça que ça se fait partout en Europe ou ailleurs. Alors, donc, dans le contexte, dans ce qu'on appelle, nous, le tramway en France, c'est un truc qui coûte cher. Ça coûte de l'ordre de 30 millions d'euros du kilomètre. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, un projet de tramway, c'est en gros 10 km, donc c'est 300 millions d'euros. Donc ça veut dire que vous endettez votre collectivité pour plusieurs années, donc que vous grévez un peu votre budget par rapport à investir ailleurs. Hein, vous ferez moins de bus, vous ferez moins d'autres choses. Et puis, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un métro. C'est-à-dire que, par exemple, Montpellier a développé, en croissance démographique, a développé 4 lignes aujourd'hui de tramway. Mais ça coûte bien moins cher que s'ils avaient fait du métro, qui est métro automatique, c'est plutôt 100 millions d'euros du kilomètre. Le Grand Paris, ça va plutôt être ça. Donc du coup, alors oui et non. En revanche, ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve que les coûts ne sont pas assez visibles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un engouement pour les tramways qui est beau, propre, beau, généreux, tout ça. En fait, derrière ça, ça coûte quand même super cher. Les choix ne sont pas si clairs, en fait. On pourrait faire des tramways à bas coût, c'est ce qui semble se dessiner aujourd'hui. Il y a une solution à Aubagne qui va être développée. Alstom a développé du tramway à bas coût. Et je crois que ça coûte de l'ordre de 15 millions d'euros du kilomètre plutôt que 30.
Oui, c'est pour abonder dans le sens d'Arnaud et évoquer ces coûts cachés. Évidemment, c'est un argument que je vais livrer au débat. Lors de la révision du SNIT, du Schéma national des infrastructures de transport, qui est en cours, il est évident qu'il y a un tournant réaliste qui a été pris. Et d'ailleurs, l'actualité politique d'hier en est un témoignage. Ce tournant réaliste, à l'égard du tramway, c'est un coût caché, clairement pour la périphérie. Et deux villes que tu as citées, Arnaud, ont aussi construit un pont récemment. Le pont Chaban-Delmas à Bordeaux, qui est un pont routier, et le pont de l'Europe à Orléans, qui est un pont routier. Donc il faut le savoir, lorsque l'on construit un tramway de centre-ville, financé parfois par des collectivités territoriales en intercommunalité, on construit aussi pour la périphérie, pour compenser un pont routier. Et donc, il y a dans le ticket électoral d'un tramway des infrastructures routières de périphérie, ce qui permet de ne pas oublier l'automobile. Et évidemment, comme je suis arrivé un peu tard, mais je ne pouvais pas en être coupable de ce point de vue-là, pardonnez-moi, mais l'automobile a toujours un rôle en périphérie, et le tramway y contribue à sa manière.
Merci. Bonjour. Vous disiez que le tramway avait été donc un peu refusé à une époque pour des raisons sociales, enfin cachées, mais sociales malgré tout. Et là, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, alors c'est un argument parmi d'autres que vous avez évoqué aussi, mais qu'on met en avant le tramway justement pour des raisons sociales également. C'est le cas à Bordeaux avec le désengorgement de tout un quartier, permettant de faire en sorte qu'une frange importante de la population accède aussi au transport en commun. C'est le cas aussi au nord de Paris avec le Grand Paris, avec les métros et le tramway. Donc je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que c'était un vrai argument? Ou est-ce que c'était une façon peut-être de valoriser tous les travaux que ça pouvait engranger par ailleurs?
Alors, dans le côté social, il y a le fait que le tramway, c'est un mode de transport qu'on peut percevoir comme pour tous, c'est-à-dire aussi bien pour les personnes âgées qu'on peut de mal à monter dans le bus, etc. Alors, dans ça, il y a un côté législation, une norme qui en fait que de plus en plus, les transporteurs sont obligés de toute façon d'aménager leur transport par rapport à toutes ces questions d'accessibilité. Donc, il y a un moment où on n'a pas trop le choix, en quelque sorte. Le côté social, il est aussi clair en région parisienne, où le tramway... Alors, certes, il y a eu le tramway de la Noé, si vous voulez, autour de Paris, mais les tramways vont surtout se développer en banlieue. Le 93 est grosso modo l'endroit où il y a le plus de tramways aujourd'hui qui vont se développer, enfin, qui sont soit inaugurés, soit en inauguration, à Sarcelles, etc. Donc, le tramway a cette vertu aussi d'aller chercher les grands ensembles qui ont toujours été mal liés, etc., et il a ce visage-là. Néanmoins, je pense que c'est surtout un visage qui est mis en avant. Je pense pas que ça. Enfin, c'est pas ce côté social-là qui me semble être le plus moteur. Ce qui me semble le plus moteur, c'est que le tramway, c'est un projet politique. Alors, la région parisienne, c'est compliqué, mais à l'échelle de toutes les autres villes, c'est une intercommunalité qui va se donner un visage, une autorité organisatrice des transports. Et le tramway, son tracé est issu d'équilibres politiques entre les différentes communes qui constituent l'intercommunalité. Donc ça, c'est un côté politique. Le côté social, et il y a un côté d'image importante de la ville à l'échelle nationale, qui, et toutes les villes de 300 000, 200 000 habitants même, doivent avoir leur tramway. Et même les villes maintenant en dessous, au Bagne, c'est beaucoup plus petit, ils vont essayer d'avoir leur tramway. On est sur quelque chose qui joue sur les images. Alors c'est du social, si vous voulez, mais c'est du social différent. Mais après, il y a quand même l'idée qu'il y a la tension que Mathieu a un peu mis en avant, la tension centre-ville-périphérie, qui se joue aussi dans le tramway. Le tramway, il passe systématiquement au centre-ville, dans les lieux qui sont les lieux piétonnisés, où vous retrouvez un commerce franchisé qui va de pair avec le tramway, etc. Et en même temps, il va chercher l'hôpital, l'université, la gare, qui se trouve, alors la gare pas forcément, mais l'hôpital, l'université et le grand ensemble qui se trouve en périphérie. Donc il y a un côté mixité sociale et le tramway a différents visages. Mais le visage qui est quand même le plus souvent mis en avant à l'échelle nationale, ça va être le visage de centre-ville. À Reims, c'est devant la cathédrale. C'est vraiment à Bordeaux, ça va être les espaces prestigieux du théâtre, etc. Il y a un lien entre aussi tramway et gentrification de ces espaces de centre-ville.
Pardon, après j'arrêterai, mais une petite question subsidiaire. En fait, c'est parce que je connais bien la question parce que j'y vis. En fait, entre deux villes périphériques de région parisienne, entre Saint-Denis et Épinay-sur-Seine, par exemple, on remplace en fait une ligne de bus par un tramway. Et donc, on avait le sentiment avant, avec ce bus, que la population d'Épinay-sur-Seine, pour un exemple très précis, n'avait pas accès au transport en commun, ce qui était faux, puisqu'ils avaient accès au bus. Et donc, aujourd'hui, on dit, voilà, aujourd'hui, ils ont un accès au transport en commun, puisqu'ils ont le tram. Donc, je veux dire, d'où vient cette vision un peu symbolique des choses, voilà.
Alors ça, ouais, oui, évidemment, en fait, il y a la question de l'infrastructure, qui est en fait assez claire, c'est-à-dire que dans l'espace français, en fait, le bus, on lui a jamais vraiment fait confiance, ou très peu. C'est pas du tout la même chose qui se passe en Angleterre, si vous réfléchissez. À Londres, il y a plus de voyages en bus qu'en métro à l'année. Donc le bus est perçu comme quelque chose de peu fiable, de souple. Alors ça peut avoir des avantages, mais c'est surtout perçu comme quelque chose de peu fiable à long terme. Et le tramway, c'est aussi une façon de donner une infrastructure à ces systèmes perçus comme faibles. Pour autant, si vous regardez en région parisienne, les grandes lignes, il y a des lignes de bus qui vont de banlieue, qui sont les plus chargées, et qui transportent bien plus de monde que le tramway des villes de province. On est sur des fréquences, des bus articulés, des choses vraiment avec énormément de gens, notamment dans les banlieues, Épinay ou autres. Et il y a tout un discours, en fait, il y a plein d'ambivalence, en quelque sorte. Si vous regardez les chiffres, il y a beaucoup de monde qui pratique le bus en banlieue, et comment. et beaucoup plus que dans le tramway de Brest qui vient d'ouvrir et qui est relativement peu fréquenté. Mais il y a une question de, il y a aussi les enjeux parisiens sont très différents, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une hiérarchie des modes qui est entre RER, métro, qui sont absents ailleurs, donc du coup les perceptions sont aussi différentes là-dessus. Et il y a le côté énergétique qui peut être intéressant aussi, c'est que clairement tout ce qui est des solutions un peu alternatives aujourd'hui ne sont pas encore mises en œuvre. Le bus électrique, on l'attend de longtemps. Le bus à gaz, c'est resté quelque chose d'assez faible pour des raisons de sécurité aussi dans les dépôts. Donc le bus reste avec des solutions assez classiques qui ont progressé beaucoup. Sur le diesel, on a beaucoup progressé sur la pollution, mais ça reste quand même des bus thermiques assez basiques.
Oui, moi c'est plus une remarque en fait. Enfin, je sais pas, vous avez parlé beaucoup de tramway, alors que par rapport au titre qui était aménagement, espace public et rigidité. Enfin, je sais pas, moi pour moi le transport public, enfin le transport dans les villes, c'est pas, ça se résume pas forcément au tramway ou au bus. Moi, je pense plutôt au vélo en fait, et je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de rater quelque chose en France? Parce que par exemple, quand on regarde ce qui se passe à Copenhague, y a une personne sur deux qui va au travail en vélo. Est-ce qu'au lieu de mettre des tramways à 300 millions d'euros, comme vous dites, on ne ferait pas mieux de mettre des pistes cyclables et des feux rouges pour les vélos et faire tout un aménagement
pour le vélo? Alors, effectivement, je comprends que vous restiez sur votre fin, je ne peux pas aborder tous les systèmes, etc. Néanmoins, le vélo aujourd'hui est un allié objectif du tramway. La façon dont on conçoit le tramway en France, c'est que vous remettez tout à plat et vous faites des bandes de quand le tramway est sur herbe, de toute façon, vous avez une piste cyclable systématiquement à côté, etc. Il y a une sorte de... C'est le monde vertueux, c'est vélo-tramway. Ça, c'est... Voilà. Néanmoins, ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, les chiffres de fréquentation d'utilisation du vélo, à part Strasbourg, en France, c'est des choses extrêmement faibles. Et on est encore... Même si avec les vélos en libre-service, etc., ça a augmenté, ça reste de l'ordre de 1 à 2% des déplacements. Donc on est sur des choses très faibles. Mais dans les régions, dans les villes de province, de toute façon, les déplacements, c'est surtout et avant tout en automobile. C'est ça, plus de la moitié des déplacements. Il n'y a qu'en région parisienne où c'est 10%, enfin à Paris où c'est 10%. Donc même les transports en commun ont un peu de mal. Alors sur les coûts, évidemment, le vélo ne va pas vous coûter 330 millions d'euros du kilomètre. Je pense qu'il y a des choses à faire. Oui, mais je dirais que les systèmes de vélos en libre service sont intéressants en ce sens qu'ils ont développé un autre visage, une autre perception du vélo, et d'autres usages sûrement. Et il y a un effet de masse important qui fait qu'à un moment, quand il y a trop de vélos, ben du coup, on est obligé quand même d'aménager un peu. Or, a contrario, je dirais aussi que je ne suis pas favorable au fait que chaque mode ait son propre espace séparé de l'un et de l'autre, et que cette vision ségrégée de l'espace public, elle peut conduire qu'à des conflits et qu'à des limites. C'est-à-dire que le jour où il y aura une bande vélo, une bande tramway, une bande bus, une bande automobile, ça passe plus d'une part, et d'autre part, ça crée, le jour où il y a un nouveau mode, il va trouver sa place, etc. Donc il vaut mieux les solutions intéressantes, les solutions de zone 30, et puis les solutions après de zone de partage, où on va pas vite, etc. C'est des solutions intéressantes qui nous viennent aussi du Nord.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Au contraire, au Danemark, vous voyez comment c'est fait. En fait, à chaque fois qu'ils construisent une route, il y a un trottoir, il y a une route pour vélo, il y a un trottoir, il y a le trottoir pour les piétons. Quoi. Et je pense que c'est en partie grâce à cet aménagement-là qu'ils arrivent à avoir des taux de déplacement en vélo qui sont très importants. Et enfin, je suis plutôt au contraire pour l'aménagement, pour favoriser le.
En termes d'efficacité, peut-être, quoi. Mais en termes de ce que ça signifie de la société, je suis pas si sûr. Mais bon.
C'est un débat, mais ouais. Les gens sont très heureux avec leur vélo au Danemark, en tout cas.
J'aurais pas le temps pour la dernière. Je suis pas sûre. Non,
vas-y. Est-ce qu'il existe des évaluations de l'impact de l'implantation d'une ligne de tramway sur l'activité économique de la ville? Enfin, je pense à un exemple qui est tout à fait... à ma porte, puisque Tours, la ville dans laquelle je réside, est en train de créer une ligne de tramway, donc qui va être inaugurée en septembre. Alors très clairement, pendant les 3 ou 4 années de travaux, l'accès au commerce, aux riverains, etc., est extrêmement difficile. Effectivement, les consommateurs prennent d'autres habitudes et pendant 3 ou 4 ans vont consommer dans les centres commerciaux qui sont à la périphérie de la ville. Et l'enjeu, effectivement, à partir de septembre, puisque va s'installer cette ligne et les travaux s'arrêtent, c'est est-ce que ces consommateurs qui ont déserté, et effectivement, il y a pas mal de commerces qui ont fermé, vont revenir. Est-ce qu'on a évalué ça?
Alors, moi, j'ai jamais lu un travail vraiment d'évaluation de ça. Il y en a peut-être, j'ai pas encore croisé. Ce que je peux dire, c'est que globalement, quand même, on voit que les effets sont difficiles à isoler. Il y a le tramway, mais ça va aussi avec la requalification du centre-ville, ça va avec des gentrifications, et ça va aussi avec des tendances globales, générales, des commerces, indépendamment de tout ça, qui est à la franchise, qui est ce genre de choses. Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, systématiquement, les villes qui font un tramway ont mis en place des systèmes de dédommagement des commerçants, sauf qu'en fait, on s'aperçoit qu'un certain nombre de commerçants n'arrivent pas à survivre au bout des 3-4 années de travaux, donc on a beau leur dire « on vous remboursera », en fait, ils ne sont plus là. Donc, mais par ailleurs, ça va aussi avec le fait que les centres-villes sont réinvestis par des marques à franchise un peu partout et que ça tue le petit commerce traditionnel. Enfin, grosso modo, le petit commerce traditionnel n'y est plus. On n'a plus que les commerces habituels que vous trouvez partout. Donc, le tramway, moi, l'hypothèse que je ferais, c'est quand même qu'il a tendance à être un peu accélérateur de ce phénomène de franchisation de la ville. Et il me semble assez clair, en revanche, qu'il introduit une modification du commerce des tissus traversés. Ça me semble assez clair. Après, sur les populations qui vont ailleurs, j'ai jamais vraiment vu de choses, mais c'est sûr qu'il y a des liens, mais qui sont dans des dynamiques aussi un peu plus globales.
J'ai une question, c'est concernant en fait la publicité un petit peu du tramway. Enfin, je prends l'exemple de Nantes rapidement. Nantes, ils ont construit une première ligne qui faisait un petit peu est-ouest. Et typiquement, c'était pour attirer les Parisiens comme une stratégie de marque. Et la deuxième ligne qu'ils ont construite, nord-sud, pour les étudiants, ça a été beaucoup plus axé sur les besoins des étudiants, avec notamment des noms très choisis, des noms de stations très choisis. C'est assez marrant. À côté de ça, ils ont fait les foulées du tram, notamment nord-sud, pour attirer les étudiants. Donc vraiment, ils ont fait une politique, et notamment Jean-Marc Ayrault a un petit peu fait ça. Et moi, ma question, elle est sur le busway. Est-ce que vous voyez ça comme vendre le bus parce que ça ne marche pas? Parce que chez nous, c'est Nantes, c'est toujours en travaux, donc le bus, c'est toujours en retard. Ou est-ce que c'est pour un petit peu parce qu'on ne peut pas faire du tramway, parce que c'est un peu difficile, ça coûte trop cher, notamment l'endroit, ils ont fait des études d'impact, ça coûtait trop cher de faire un tramway. Est-ce que c'est beaucoup plus des problématiques financières ou alors est-ce que c'est des problématiques liées au bus parce que ça ne marche pas?
Alors, je ne sais pas forcément, voilà, c'est pas forcément opposé vos deux pôles. Dans toutes les villes, en fait, on fait une ligne, on fait deux lignes. Après, on a un peu de mal à faire passer dans le centre-ville la troisième, financièrement aussi. Et les questions se posent, parce qu'en plus, l'effet tramway de la première ligne, c'est bien, vous accédez dans le club des villes tramway. La deuxième ligne, vous y êtes déjà, il y a moins d'effets. Et la troisième, ça coûte toujours aussi cher, voire même plus, parce que c'est plus compliqué à faire passer. Mais il n'y a plus, quasiment plus d'effets politiques ou quoi que ce soit. Donc, Nantes a développé quelque chose qui s'appelle le busway. Hein, c'est un terme déposé, qui en fait, c'est un bus, mais qui roule sur une plateforme bien, bien taillée, comme qui ressemble à du tramway. Il n'y a pas de rail, mais c'est, voilà. Énergétiquement, c'est un bus thermique bête et méchant. Et ça a une tête de tramway parce que on vous fait croire que c'est un tramway. Ça a une bonne fréquence. Hein, ça, d'un point de vue du transport, c'est pas idiot, loin de là. Mais il y a un essoufflement de l'effet tramway, si vous voulez, qui fait que l'investissement est d'autant moins rentable politiquement. Et il y a aussi l'idée qu'un busway, ça peut préfigurer un tramway. C'est-à-dire que tout est prêt pour qu'il suffit plus de mettre un peu de millions d'euros et un peu de rails et vous avez un tramway. Je pense que c'est une solution intéressante
qui parce que beaucoup de villes vont, les villes qui, Nîmes ou des villes qui sont clairement trop petites pour avoir un tramway, développent ce genre de solution. Ça s'appelle le BHNS, le bus à haut niveau de service, qui est grosso modo un gros bus qui énergétiquement est pareil que les vieux bus, mais qui a plus de capacité et un autre beau visage. Ça va quand même avec l'idée qu'on ne fait confiance à des bus que dans la mesure où ils ressemblent au tramway, qui est un peu discutable, on va dire. Voilà.
Merci beaucoup. Peu de questions. Donc on fait une pause de 10 minutes, mais avant, vous êtes invité à venir signer. Merci beaucoup, monsieur.